Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 6, le verset que vient de nous lire le pasteur. Ça fait partie de nos versets aussi du jour. 2 Corinthiens 4, 6. Amen. Il est écrit de la même manière, donc on va changer un peu la phrase, de la même manière que Dieu autrefois avait dit que la lumière soit, alors qu'il n'y avait que des ténèbres, de la même manière il a dit la lumière soit, que la lumière soit, les ténèbres ont été chassées, la lumière a brillé. Ce même Dieu-là a dit la même phrase un jour pour moi, pour nous, que la lumière soit. Et nous étions dans les ténèbres, nous avons pu voir clair. C'est qui dit ça? C'est l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul était persécuteur des chrétiens. Il était méchant. Mais tout en croyant être sur le bon chemin. Mais un jour, la lumière est venue à lui. Il a vu clair. C'est pourquoi nous voulons parler de cela. Que la lumière soit, que Dieu veut que la lumière vienne dans chacune des vies ici présentes. Quand la lumière vient, la lumière de Dieu vient, on est transformé. Les ténèbres sont chassées. Donc nous lisons l'histoire de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Le contexte est le suivant. Il y a le roi Agrippa qui a entendu parler de Paul, qui était prisonnier, par le gouverneur Festus. Mais Agrippa ne comprend pas qu'un homme comme Paul, qui est visité par des gens riches, qui a un certain pouvoir, une certaine puissance, est prisonnier en même temps. Il ne comprend pas qu'il est prisonnier, pourquoi exactement. Et il sait que Paul peut par son intelligence humaine, vivre autrement. Vivre riche, vivre bien, il le sait. Il se dit, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, cet homme-là, reste en prison alors qu'il peut être libre, riche? Comment il sait tout ça? Parce qu'il voit les gens qui viennent visiter Paul en prison. C'est des gens riches, c'est des gens bien placés. Alors il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait en prison alors? Qu'est-ce qui le prend pour continuer sur cette position qui le fait demeurer en prison? Donc c'est là que le gouverneur Festus amène Agrippa écouter. Donc c'est comme si c'était un tribunal. Maintenant c'est le juge, c'est le roi Agrippa. Il veut comprendre qu'est-ce qui a pris Paul, qu'est-ce qui fait bouger Paul, qu'est-ce qui fait marcher Paul. Il veut comprendre le roi Agrippa. Donc, nous laissons la place au diacre Fel. Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 1er.
Roi Agrippa, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
Amen. Est-ce que vous avez remarqué, il y a plusieurs fois, le mot « lumière » revient toujours. Lumière, ténèbres, le Christ va venir annoncer la lumière à toutes les nations. C'est comme ça que les choses spirituelles fonctionnent. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et c'est Dieu qui est la lumière. C'est écrit dans sa parole, 1 Jean 4, 7, Dieu est lumière. Et l'apôtre Paul dit au roi Agrippa, le roi Agrippa veut comprendre, mais qu'est-ce qui fait marcher ce monsieur-là? C'est un juif, un grand intellectuel. Il est issu, il est romain en même temps, il est issu d'une bonne famille, il a été dans la meilleure école avec Gamaliel. Mais qu'est-ce qui l'anime? Il a des connaissances, il a des gens riches qui le connaissent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il préfère cette vie-là qu'il a choisie? C'est quoi cette vie qu'il a choisie qui l'amène en prison? Il veut comprendre. Il dit à Paul, explique-moi. Paul lui dit, c'est la lumière qui fait ce que je suis là. Moi, j'étais contre Jésus. J'étais contre les chrétiens. Je les emprisonnais. Je les frappais. Et quand on les tuait par d'autres, moi aussi, j'étais d'accord. Mais un jour, alors que je me dirigeais à Damas pour arrêter les chrétiens, il avait reçu les autorisations des sacrificateurs, des prêtres juifs, pour aller en Syrie, à Damas, arrêter les chrétiens et puis les mettre en prison. Il dit, alors que j'étais en chemin, une lumière est tombée sur moi. Et dans la lumière, quelqu'un m'a parlé. À partir de ce jour-là, ma vie a changé. C'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 6, Dieu qui a dit dans Genèse que la lumière soit, alors qu'il n'y avait que des ténèbres, il peut éclairer maintenant chaque humain, parce que chaque humain est dans les ténèbres. Il peut dire maintenant que la lumière soit chez toi. C'est lui qui sauve. Et Paul dit au roi Agrippa, c'est à cause de cette lumière que je me retrouve en prison. Parce que cette lumière a changé ma vie. La lumière de Jésus m'a changé la vie, a changé ma vie. Et Jésus m'a donné l'instruction d'aller ouvrir les yeux des autres pour qu'ils passent des ténèbres à quoi ? À la lumière. Des ténèbres à la lumière. Donc ma vie maintenant, Paul explique au roi Agrippa, il dit, roi Agrippa, maintenant ma vie sert à ça. Aller dire aux autres qui sont dans les ténèbres, en dehors de Jésus, c'est les ténèbres. Allez dire aux gens, vous êtes dans les ténèbres parce que vous n'avez pas Jésus, c'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est Dieu qui est la lumière. Et Dieu a dit que la lumière soit chez certaines personnes. Et les gens, ils ont vu clair, ils ont compris que la gloire de Dieu était sur son fils Jésus. Et Dieu a dit maintenant à ces personnes-là, allez libérer les autres. Allez dire aux autres que c'est moi qui suis la lumière. Allez les sortir des ténèbres de Satan pour les amener à la lumière. Que la lumière soit. Cette lumière-là, quand on la rencontre, elle transforme notre vie. Et la ville de Paul était transformée. Au point que il passait de prison en prison à cause de l'évangile. Sa vie a été changée par la lumière de Dieu. Que la lumière soit aujourd'hui dans ta vie. Voilà ce que Dieu décrète. Que la lumière soit, que tu vois clair, que tu sortes des ténèbres, à marcher dans le flou humain. Paul pensait qu'il était dans la lumière, mais on lui a montré que c'était une fausse lumière ou bien une lumière artificielle, une lumière humaine, une lumière de la création. Mais il y a la vraie lumière, c'est celle de Dieu. Il est écrit au verset 13, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » La lumière de Dieu surpasse nos petites intelligences qui pensent connaître, qui pensent faire de bonnes choses. Ça surpasse ça. La pureté de Dieu est plus grande que cela. Et quand on rencontre cette pureté, c'est là qu'on se rend compte que soi-même, on était dans les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit, vois maintenant. C'est là que tu te rends compte que tu étais sale. Mais tant qu'il n'y avait pas cette lumière, tu croyais être bon, tu croyais être correct, jusqu'à ce que la lumière vienne. Que la lumière soit, dit le Seigneur. Que tu réalises que tu es dans les ténèbres et tu saisisses la lumière pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Pavel, qui était bandit. Et un jour, il a rencontré la lumière. La lumière, ce n'est pas toujours comme Paul a expérimenté. Une grande lumière qui venait du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. La lumière, c'est Dieu lui-même. Et Dieu peut nous parler tantôt d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est que le résultat est qu'on voit clair et que notre vie est transformée. C'est ça le plus important. Ça peut être en douceur, ça peut être avec puissance, ça peut être avec une lumière visible, mais ça peut être juste par la lecture des Écritures, on va recevoir la lumière de Dieu. Ça peut être par une prédication, on va recevoir la lumière de Dieu. Et Pavel, qui était un bandit, il venait de tuer avec les autres deux chrétiens. Et ils ont fouillé les poches des autres, de ces chrétiens-là. Ils ont trouvé un Nouveau Testament. Et quand il a commencé à lire le Nouveau Testament, la lumière est venue. Il a vu clair. Et quelques mois après, lui et six de ses amis, des grands bandits, ils se sont dirigés vers le commissariat pour déposer les armes, pour dire « nous venons nous rendre ». Alors le commissaire, le procureur est rentré chez lui, il dit à sa femme « mais je ne comprends pas ces gens-là ». D'accord, ils ont décidé d'arrêter de faire du banditisme. D'accord, ils ont décidé d'arrêter de voler. Mais pourquoi viennent-ils se rendre ? Ils auraient pu décider d'arrêter tout ça et de poursuivre leur vie loin de policiers, loin de l'État. Commencer une nouvelle vie ailleurs. Pourquoi viennent-ils se rendre ? Vous savez combien de gens cherchent à s'évader de prison ? Il y a des gens qui peuvent mettre 10 ans pour s'évader d'une prison. Hier, j'ai même suivi une vidéo. Quelqu'un, il a fait des efforts scientifiques terribles pour s'évader d'une prison. Mais on l'a rattrapé en combien de temps ? En un jour seulement. Donc, il a pu respirer l'air du dehors en un jour. Vous voyez combien, quel risque après, il reçoit maintenant 35 ans de prison après cela. Vous voyez le risque que ce monsieur-là prend pour s'évader de prison ? Mais ces gens-là, eux, ils viennent se livrer pour entrer en prison. Alors le procureur est devenu fou. Il dit, mais comment expliquer ça ? Alors que les gens font tout pour sortir de la prison, eux, ils viennent se rendre pour entrer en prison pour le mal qu'ils ont fait. Alors qu'ils pouvaient poursuivre leur vie autrement, puisqu'on ne les avait jamais attrapés. Mais les Pavel ont expliqué au procureur, c'est l'évangile qu'on a lu qui fait qu'on vienne se rendre. On a reçu la lumière du ciel. Jésus dit dans Jean 8, 12, on va lire Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Effectivement, quiconque néglige Jésus est dans les ténèbres. On peut même venir dans les églises, mais dans sa propre vie être dans les ténèbres parce que Jésus, on n'a pas reçu la lumière de Dieu. On fait des efforts religieux. D'ailleurs, Paul, qui nous a donné le verset de Corinthiens 4, 6, il était dans ce cas-là. Il était un grand religieux, un grand pharisien, mais il n'avait pas reçu la lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est là qu'il a vu clair. Il a compris que dans sa religion, il était dans les ténèbres quand même. La véritable lumière change la vie de quiconque reçoit cela. Dieu dit que la lumière soit, automatiquement il y a un changement, une transformation. Tu peux te convaincre d'être correct, tu te trompes, tu es dans les ténèbres si tu n'as pas Jésus. L'homme est perdu sans Jésus. Jésus dit dans Jean 8, 23, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Il y a quelque chose en nous qu'on appelle péché. C'est ce qui explique que nous vieillissons. C'est ce qui explique que nous tombons malades. C'est ce qui explique qu'on meurt un jour. Parce qu'à cause du péché, Dieu avait dit, tu mourras. Et qu'on le veuille ou pas, tous ceux qui ont péché sont condamnés à mort. Et on le voit. Et cette mort, c'est les ténèbres. Ça commence alors qu'on respire encore, on est dans les ténèbres. Oui, on peut faire des contrats magiques pour être riche, mais on est dans les ténèbres. Parce qu'on est obligé de sacrifier des humains pour être riche. On est obligé de faire des coups bas aux autres pour être riche. On est dans les ténèbres, même quand on pense qu'on est un bon religieux. On est dans les ténèbres parce qu'on ne se rend pas compte que seul Dieu peut nous éclairer. Seul Dieu peut nous ouvrir les yeux pour nous amener à sa lumière. Personne ne peut se sauver tout seul. L'homme est perdu sans Dieu. On est dans les ténèbres. Tant qu'on n'a pas compris qui est Dieu, on est dans les ténèbres. Nous avons besoin que le Seigneur dise que la lumière soit. Et quand il dit dans ta vie que la lumière soit, tu reçois un éclairage et tu te prosternes devant lui. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'abandonne ma vie. La question d'aujourd'hui, c'est pourquoi veux-tu continuer à évoluer dans les ténèbres? Pourquoi? Alors que la lumière est disponible. Pourquoi veux-tu continuer à marcher selon tes propres efforts? En vain, surtout qu'il y a eu et il y a des prédécesseurs dans ce chemin-là, de gens qui autrefois étaient des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, des PDG qui se retrouvent à se faire nourrir dans les maisons de retraite aujourd'hui. On leur donne la nourriture comme on donne à des bébés. Mais c'était des grands docteurs, des grands ingénieurs, des grands politiciens. Ils ont connu un temps où ils pensaient qu'ils étaient dans la lumière. Mais la Bible dit qu'ils étaient déjà dans les ténèbres, mais ils ne se rendaient pas compte. Mais viendra un jour où tu sauras que tu étais dans les ténèbres. Comme a dit un serviteur de Dieu, tant qu'on te parle de Dieu et que tu te sens fort, tu négliges. Même certains qui se disent chrétiens, ils sont dans les ténèbres parce qu'ils ne sont que chrétiens de nom, officiels. Mais leur vie n'a pas été dévoilée par la lumière. Leur vie n'a pas été visitée par la lumière de Dieu. Ils sont chrétiens par l'intelligence. Mais leur vie n'a pas bien changé. Parce que quand la lumière de Dieu te saisit, tu changes radicalement. C'est ce qu'est devenu Paul. Paul explique à Agrippa, « Agrippa, je suis comme ça parce que la lumière de Dieu m'a saisi. Je suis en prison, mais je suis bien parce que je suis dans la lumière. » À cause de cela, il y a Esther Gulshan qui était une fille d'imam au Pakistan. Elle est presque née infirme, donc parce que l'infirmité est venue rapidement après sa naissance. Et pendant 15 ans, ses membres étaient atrophiés, petits. Son père, qui était imam, l'a amené à la Mecque pour qu'elle soit guérie miraculeusement. Ça n'a pas marché. Ils ont fait toutes les cérémonies pendant 7 jours. Elle est revenue malade. Mais un jour, la lumière a frappé à sa porte. Que la lumière soit, bien-aimée. La lumière a frappé à sa porte. Mais pour que la lumière vienne, il faut qu'il y ait une humilité en nous. Il y ait un renoncement, une capitulation. Il faut capituler. Et même certaines personnes, vous savez, vous allez dire, mais Paul n'avait pas capitulé. Oui, mais en allant combattre les chrétiens, on lui a dit, il te serait dur de résister aux aiguillons. Donc ça veut dire que Paul, il y en a qui manifestent leur capitulation en jetant leurs derniers efforts dans la bataille contre Dieu. En réalité, ils ne sont plus bien. Ils tentent une dernière fois de lutter contre Dieu, mais en réalité, ils sont déjà touchés. Mais ils résistent. Alors ils tentent une dernière fois de dire non à Dieu. Mais Dieu a déjà vu qu'ils sont touchés et la lumière vient. Et cette fille-là, qui avait 15 ans, commençait à prendre conscience qu'elle était dans les ténèbres avec toutes ces cérémonies de l'islam. Alors elle a arrêté de prier les prières musulmanes. Elle a commencé à parler à Dieu comme on parle à quelqu'un face à face. Elle a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé ainsi? Pourquoi tu m'as créé infirme? Ce n'est pas normal, tout le monde marche et moi je suis comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle a commencé régulièrement à prier Dieu face à face, sans passer par les prières religieuses. Elle a parlé à Dieu. Et la lumière est venue. Elle a entendu une voix qui lui a dit, « Qui est celui qui guérit les malades? Qui est celui qui donne la vue aux aveugles? Qui est celui qui fait marcher les paralytiques, qui ressuscite les morts? » Mais c'est qui? La voix a continué. « Je suis Jésus, le Fils de Dieu. » Même dans ton livre, dans votre livre, on parle de moi. Depuis ce jour-là, elle a commencé à prier Jésus, le prophète qui guérit. Pendant 3 ans, elle a prié, mais elle n'avait pas été guérie. La lumière peut venir à plusieurs stades. Premier stade, la voix lui a parlé, la lumière est déjà venue. Mais il y a un moment où une grande lumière maintenant vient. Alors, après 3 ans, elle dit, « Seigneur, tu m'as dit que c'est toi qui guérissais. Ça fait 3 ans que je prie pour être guéri. Je ne suis pas toujours guéri. » C'était à 4 heures du matin. Si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi. Quand elle a fini sa phrase, sa chambre était remplie de lumière. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, est entré dans sa chambre avec 12 apôtres, 6 à gauche, 6 à droite. Il lui a dit, lève-toi. Sa robe qui était verte est devenue physiquement blanche à jamais par la puissance de la lumière qui était entrée dans la chambre. Jésus lui a dit, lève-toi. Elle a dit, je suis infirme, regarde comment mes membres sont atrophiés, ils sont petits, je n'ai pas de force dans les membres, et ils sont petits, je ne peux même pas bouger. Jésus a dit, c'est moi qui te le dis, lève-toi. Elle a répondu encore, Jésus a dit la troisième fois, c'est moi qui te le dis, lève-toi. Du coup, ses membres ont augmenté de volume, sont devenus normaux. Elle s'est levée, elle a embrassé le Seigneur Jésus. Sa vie était transformée. Elle était une fille de riche. Elle avait environ 20 domestiques pour elle. Elle avait des jardins. Elle avait une Mercedes que le père lui avait laissée. Son père qui était mort lui avait laissé. Fille de riche au Pakistan. Avec tout cela. Mais ce jour-là, sa vie a changé. Et sa tante a entendu les pas dans sa chambre. Sa tante dit, mais Gulshan, qu'est-ce qui se passe? Qui est avec toi dans ta chambre? Elle dit, ma tante, c'est moi-même, je marche. La tante dit, mais c'est pas possible. Elle dit, oui, c'est moi. La tante ouvre, oui, elle marche. Les membres ont gonflé, sont devenus normaux. La tante dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais c'est Jésus qui m'a visité. La lumière m'a visité. Les choses ne sont plus les mêmes. Je marche maintenant. La tante dit, s'il te plaît, quand les gens vont venir, dis-leur que tu as été guéri par Dieu, mais ne dis pas Jésus, parce qu'ici on ne croit pas en Jésus. Elle a dit à la tante, mais c'est Jésus qui m'a guéri, moi je veux dire quoi? Je ne peux dire que c'est la, je peux citer que la personne qui m'a guéri. Et tout le quartier est venu la visiter, c'était une grande famille. Tout le monde dans le quartier venait visiter la miraculée, celle qui a été guérie. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce qui t'a guéri? Elle disait, c'est Jésus qui m'a guéri. Les frères l'appelaient à côté, Gulshan, on est content que tu sois guéri, mais ne dis pas que c'est Jésus. Et elle répondait, c'est lui qui m'a guéri. Je veux dire, quoi d'autre? C'est ce que Paul a dit à Agrippa. Il a dit à Agrippa, c'est vrai que tu peux penser, je suis intellectuel, je peux être riche sans m'encombrer de ces problèmes-là de Jésus. Mais Paul dit à Agrippa, mais la lumière est venue en moi. Depuis, je ne suis plus le même. Pose-toi la question, est-ce que la lumière de Dieu t'a changé? Est-ce que les gens qui sont autour de toi peuvent dire vraiment que tu n'es plus le même? Paul était aussi un grand religieux. Ce n'est pas la régularité à l'église qui fait que quelqu'un a reçu la lumière de Dieu. C'est la transformation. La transformation qui va faire que les gens te considèrent comme fou. Parce que la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que Esther Gulshan a quitté sa famille pour aller se faire baptiser. Et sa famille a commencé à la rechercher. Est-ce que vous vous imaginez que quelqu'un qui a fait 20 ans sans savoir comment on lave une assiette, avec 20 domestiques pour elle toute seule, va se retrouver dans des conditions où elle doit laver les assiettes? Ses mains, parce que ses mains étaient tellement tendres, parce qu'elle n'a jamais fait de travail. Dès qu'elle touchait quelque chose, ses mains, elle lavait les assiettes, ses mains se coupaient. Elle doit vivre pauvrement, dormir dans un balcon. On se dit, mais qui peut laisser une grande maison avec des jardins, 20 domestiques, Mercedes, pour se retrouver à dormir au balcon chez quelqu'un de pauvre? Mais elle va vous répondre, c'est à cause de la lumière que j'ai rencontrée. Jésus m'a changé. Je ne suis plus la même. Maintenant, ma vie sert à dire à tout le monde que Jésus peut les changer aussi. Que la lumière soit, bien-aimé. Que la lumière entre dans ta vie. Ça va tout changer. Mais tu peux dire tout ce que tu veux, machin, truc là, Cristiano Ronaldo, Mohamed Ali, tous ces gens-là, le jour de leur mort, ils sauront qu'ils étaient dans les ténèbres. Parce que tu ne peux pas acheter la mort. Steve Jobs, l'inventeur de Apple, ordinateur Macintosh, tout ça, le jour où le cancer est en train de l'emporter, c'est là qu'il se rend compte que l'argent, c'est rien du tout. C'est là que tu te rends compte que ton intelligence, c'est rien du tout. Tu es grand savant à 83 ans, 65 ans. On m'a parlé d'un grand professeur à 66 ans, 65 ans. Il est avec sa femme, je crois que c'était au supermarché de Barentin, au centre commercial de Barentin. Sa femme s'est déplacée dans une petite boutique. Après, elle n'a plus retrouvé son mari parce qu'il avait Alzheimer. Son mari ne savait plus où il était. Il a fallu qu'on annonce à le haut-parleur, il y a une personne qui est perdue. Il ne sait même pas qu'il était venu avec sa femme. Mais c'était un grand professeur. C'est ce jour-là que vous réalisez que c'était les ténèbres. Ce que vous pensiez être une force, c'était les ténèbres. Ce que vous pensiez être de l'intelligence, c'était rien. La vraie intelligence, c'est Dieu lui-même. C'est lui la vie, c'est lui la lumière. Quand il te saisit, il te prend dans ses mains, il t'amène au ciel. Là où il n'y aura plus de pleurs, ni de douleurs. Là où tout sera clair. Mais cette lumière commence déjà sur la terre. Et quand quelqu'un est dedans, il va préférer tout lâcher et garder cette lumière-là. Et de maison en maison de chrétiens, Gulshan atterrit dans une école chrétienne où elle donne des cours. Mais sa famille la rattrape. Non, elle est partie visiter une cousine pour demander de l'aide. Et c'est plutôt la cousine peut-être qu'il avait contactée. Elle arrive visiter la cousine. La cousine lui dit, mais Gulshan, si tu renies Jésus, tu récupères tout l'héritage que tes frères ont pris. Tu vas tout récupérer. La maison, tu vas tout récupérer. Il suffit que tu dises que tu n'es plus avec Jésus. Gulshan dit, ma tante, j'étais dans les ténèbres. Jésus m'a éclairé. J'étais infirme, il m'a guéri. Vous voulez que je le renie? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. Je suis dans la lumière. Pour rien au monde, je vais retourner dans les ténèbres. Alors, en sortant de chez la tante, c'était directement la prison. Elle se retrouve en prison. Alors qu'elle fait partie d'une grande famille riche au Pakistan. En prison avec les bandits, les voleuses. Dans la saleté de la prison. Toi qui viens d'une grande famille avec beaucoup de voitures, avec beaucoup de richesses. Au début, elle était en colère. Mais la lumière, quand elle te saisit, elle continue à te fortifier. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4. Il dit, mais cette lumière, elle est toujours avec nous. Elle a commencé à prier que cette lumière descende dans la cellule où elle était. Elle a commencé à parler de Jésus. Les voleuses se sont converties. Les bandits se sont convertis. Les filles qui avaient tué quelqu'un, elles se sont converties. La cellule de Gulshan est devenue un endroit de lumière. C'était un endroit de prière où tout le monde changeait de vie. Et quand on est venu la sortir par sa sœur, elle a dit à sa sœur, je veux rester en prison. Mais sa sœur dit, mais Gulshan, t'es folle. Je viens te sortir de la prison, toi tu veux rester en prison. Elle dit oui. Puisque dehors, il n'y a que des méchants qui m'attendent, qui ne veulent pas de Jésus. Dehors, les gens sont orgueilleux. Ils pensent être forts. Ils pensent être riches. Quand on leur parle de Dieu, ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Mais en prison, toutes les gens, les filles avec qui je partage la cellule, ben, elles sont devenues chrétiennes. Nous prions ensemble Jésus et la gloire de Dieu est là. Je préfère la prison. C'est ça la lumière. Les gens ne vont pas comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, j'ai rencontré la lumière. Ça m'a changé. Et cette lumière, c'est Jésus. Lui-même me dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. C'est moi qui éclaire les gens, qui leur montre qu'ils sont dans les ténèbres. Mais elle est sortie quand même. Elle a consacré toute sa vie à Dieu. La lumière l'avait saisie. Nous ne sommes pas là pour prêcher la religion. Nous sommes là pour dire à tout homme, sors des ténèbres. Sors de l'égoïsme. Sors du désordre. Sors de l'éloignement vis-à-vis de Dieu. Loin de Dieu, tu es dans les ténèbres. Que tu sois président de la République, que tu sois roi. C'est ce que Paul dit à Agrippa. Il dit, Dieu m'a donné l'autorité pour dire même à toi, roi Agrippa, sors des ténèbres, viens à la lumière de Jésus. Ta royauté, c'est rien du tout. Le jour de ta mort, ta royauté ne va pas te protéger. Louis XIV est mort. Le roi soleil. Où est son soleil? Il est dans le tombeau. Mais Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il règne à jamais. Il est assis à la droite de son papa, au ciel. Il continue à commander. Il continue à dire aux gens. Il continue à paraître aux gens et leur donner sa lumière pour qu'ils soient différents, remplis de lumière et eux-mêmes aller dire aux autres, venez à la lumière de Dieu. Arrête de marcher dans les ténèbres. Arrête de marcher dans les ténèbres, dans tes propres efforts. Les histoires que nous sommes en train d'expliquer ou de lire, si ta vie n'est pas touchée de la même manière, aujourd'hui dis au Seigneur, je veux que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit. Je veux voir clair. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si dans ton cœur, tu as soif qui t'éclaire, il va t'éclairer. Même quand tu boudes aussi en même temps, lui, il veut sauver. Il est la lumière du monde. L'apôtre dit, Dieu qui a dit que la lumière soit autrefois, ben, il peut le dire encore aujourd'hui dans ton cœur, et que ça devienne clair. Et quand ça devient clair, ta vie est transformée, changée. Tu n'es plus la même personne. La douceur t'envahit. Khalid, c'était un terroriste. On lui a donné comme travail, comme c'était un intellectuel, de faire un livre qui contredit la Bible. Un Égyptien, Khalid. Il a commencé à être... Donc il était obligé de lire la Bible pour faire un livre qui détruise la Bible. Il a commencé à lire la Bible. Il est arrivé à la conclusion, par la lumière qu'il a reçue là-bas, que c'est la Bible qui était vraie et que le Coran était faux. Il a maintenant commencé à écrire un livre qui montre que le Coran est faux. C'est là que son chef spirituel le visitait par surprise. Le chef spirituel a vu l'autre, le deuxième livre. Il a voulu le tuer. Et ce jour-là, Khalid crie à l'aide. Il dit, Jésus, aide-moi. Et Jésus lui apparaît. Jésus lui dit, c'est moi la lumière du monde. C'est moi le sauveur. Je suis venu me révéler à toi. C'était la nuit. Alors, c'est à ce moment-là que sa vie est transformée. Lui qui faisait peur à toute sa maison, il faisait peur à sa mère, il faisait peur à sa sœur, à ses sœurs. Quand il rencontre Jésus la nuit, il dit à Jésus, « Mais j'ai perdu ma Bible. » Parce qu'en chemin, un jour, il s'était fait, comme il étudiait la Bible pour contredire la Bible, il l'avait perdue. Jésus lui a dit, « La Bible ne se perd jamais. Regarde dans ton armoire, tu verras la Bible que tu as perdue. » Il a ouvert l'armoire, il a retrouvé la Bible qu'il avait perdue en chemin. Le matin, quand il se réveille, il va embrasser sa mère. Il va, je crois même que c'était même pendant la même nuit, il va s'agenouiller devant sa mère, dire, « Maman, pardon. Je t'ai maltraité pendant des années à cause de l'islam. Je te demande pardon. » La maman dit, « Mais Khalid, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit, « J'ai rencontré Jésus. Il m'a transformé. J'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. » Il est devenu doux. Et le matin, quand il sortait dans la rue, il embrassait tout le monde. Il était content de voir toi. Lui qui faisait peur à tout le monde, terroriste connu dans la ville, mais il a commencé à embrasser tout le monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Il faut sortir des ténèbres. Il faut sortir de la marche personnelle où tu marches par rapport à tes efforts, selon tes efforts. Il faut sortir de l'approximation. Il y a des gens qui sont en Jésus approximativement. Ça, c'est les ténèbres. Avec Jésus, c'est la clarté totale. Voilà, c'est la lumière. La lumière ne se cache pas. Elle brille. La lumière transforme. Nous lisons Éphésiens 5, 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Non seulement on était dans les ténèbres, mais on était ténèbres, dit la Bible. Ténèbres, tu étais ténèbres. Parce qu'il y avait la mort en toi. Le mensonge. L'égoïsme, la magie, tu étais ténèbres toi-même en tant que personne. Autour de toi, tu créais la division. Autour de toi, tu as attristé les gens, tu as attristé ta mère, tu as attristé tes frères. Donc tu étais ténèbres puisque tu créais l'obscurité dans la vie des autres. Tu créais des difficultés aux autres. Tu étais ténèbres. Le Seigneur dit, ça suffit. Deviens lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière, c'est la bonté. Ce n'est pas rendre le mal par le mal. Coup par coup. C'est qu'on te fait le mal. Toi, tu rends par le bien, c'est ça la lumière. Tu comptes sur ton Dieu pour faire justice. Tu comptes sur ton Dieu pour sauver celui qui te fait du mal. Autrefois, vous étiez ténèbres. Un homme sans Dieu est dans les ténèbres. Il raisonne comme un animal. Il ne pense qu'à manger, s'amuser et dormir. C'est les ténèbres. Aucun sens dans la vie. Il est inconscient de sa mort prochaine. Il est inconscient des conséquences de ses actes. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui font à 25 ans, à cause de quelques bêtises, de la colère non gérée, il va tuer quelqu'un et il se retrouve à purger 40 ans de prison. Ça veut dire que cet homme-là va passer 40 ans dans une cellule. Est-ce que ça, c'est la vie, ça? Mais c'est les ténèbres qui l'empêchaient quand il avait 25 ans de réaliser tout ça. Dans les ténèbres, nos raisonnements sont faux. On ne s'en rend pas compte. Quand il est avec les amis, les potes, il menace quelqu'un, la personne réagit. Allez, tu tires. Hey! La mort s'ensuit. 40 ans de prison. Tu vas passer de 25 ans là, tu sors de prison à 65 ans. Ça, c'est le fruit des ténèbres. Le fruit des ténèbres, c'est la colère. N'importe quel mot, on va te dire, tu te fâches. C'est le fruit des ténèbres. Les ténèbres, ça détruit. Le fruit des ténèbres, c'est l'égoïsme. Tu as faim, tu ne manges pas, même parce que tu veux voir de l'argent bouger dans ta poche. Tu ne veux pas sortir. Tu préfères que ton ventre souffre et que les autres souffrent aussi. C'est le fruit des ténèbres. L'égoïsme. Le fruit des ténèbres, c'est ne voir que son intérêt. Du coup, on est prêt à détruire les autres pour que son intérêt soit satisfait. C'est le fruit des ténèbres. Le fruit des ténèbres, c'est vivre sans Dieu. Tu n'as pas de but. Tu n'es qu'un consommateur simple, comme un animal. Ça, c'est le fruit des ténèbres. Un homme doit avoir un but dans la vie. Et l'homme a été créé éternel et son but doit être éternel. Il ne doit pas considérer la mort comme la fin de toute chose. Quiconque considère la mort comme la fin est dans les ténèbres. Il est trompé par le diable. Le diable lui dit, à ta mort, c'est fini. Mais le jour où il va mourir, il va se rendre compte que ce n'est pas fini. Ça continue. Ça continue. C'est les ténèbres de croire qu'à la mort, c'est fini. Non, ça continue. La ruse du diable, c'est de te faire croire que c'est fini. Comme ça, tu vas vivre en animal consommateur et être surpris de te retrouver en enfer après ta mort parce qu'il veut amener beaucoup de gens en enfer. Ne pas croire en ces choses-là, c'est être dans les ténèbres. Vous savez, il y a des gens qui... dans certains pays, ne croient pas en l'existence des microbes. Hein. La nourriture peut tomber par terre. Elle a dit, ah bon, les microbes sont distraits, ils n'ont pas vu, ils n'existent pas. Ils mangent quand même. Il y en a qui ne croyaient même pas à l'existence du sida. Ah, c'est faux, on nous raconte de mensonges. Allez, la vie de débauche jusqu'à ce qu'il en meure. On peut décider de croire ou de ne pas croire, mais je nous informe que lorsqu'on ne croit pas, après la mort, il y a une suite, on est dans les ténèbres. Lorsque on se fie à l'argent pour mener notre vie, on est dans les ténèbres parce que l'argent nous perdra. L'argent nous fera croire que nous sommes puissants parce qu'on peut s'acheter ce qu'on veut. Mais on ne va pas te dire que tu ne peux pas acheter ta santé. Steve Jobs est mort, il avait l'argent. Mohamed Ali, à 42 ans, il avait déjà la maladie de Parkinson, alors qu'il avait non seulement l'argent, il avait le succès et le pouvoir. Mais le Parkinson l'a empêché de jouir de tout cela. Mais ça, on ne te le dit pas. On ne te dit pas que dans environ 40 ans, on va te faire manger la soupe dans une maison de retraite. Ça, on ne te le dit pas tout de suite. Et parfois, il y a des gens même qui donnent la soupe à d'autres, ils oublient qu'eux aussi un jour, on leur donnera la soupe. C'est les ténèbres. Tu ne vois, quand tu vois un vieillard, tu dis, oh, je veux finir comme ça. Mais les gens ne réfléchissent même pas à cela. Mais celui qui est dans la lumière dit, comme je vais arriver là, je préfère être avec qui? Avec Dieu, avec Jésus. Jésus va rafraîchir mes os et me donnera la santé à mes muscles. Parce qu'à la croix, il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'occupera de moi, Dieu, quelles que soient les circonstances. Il sera avec moi. Et il est plus fort que la vieillesse. On parle de Josué, qu'il est mort, il avait plus de 100 ans, je crois, mais il était toujours fort. Parce que le Seigneur était avec lui. Mais dans les ténèbres, on ne voit pas tout ça. On voit qu'on est applaudi. Les Claude François, Thierry Leluron, tous ces gens-là qui ont fait des contrats magiques pour avoir du succès. Quand tu es dans le succès, tu crois que tu es fort. Mais quand les démons te lâchent, c'est là que tu te rends compte que c'est fini et c'est trop tard. Et il va mourir d'électrocution, est-ce qu'on trouve ça normal? Non, c'est des conséquences de la magie. On a vu le Michael Jackson, où la magie les a entraînés, les Johnny Hallyday. Il disait, il roulait très vite pour faire un pied de nez à la mort. Mais qui a fait un pied de nez à l'autre? Oh, je vais me moquer de la mort, je roule très vite. Mais qui s'est moqué de l'autre? C'est la mort qui finira par se moquer de toi. Mais Jésus a dit ceci. On va lire ça, même si ce n'était pas prévu, dans Jean 11, 24 à 25. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la mort qui terrasse tout le monde? Verset 25, Jean 11, 25.
Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. »
Amen. Je suis la résurrection et la vie. La mort est un petit devant moi. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toi, tu vas préférer la joie de la bouteille. Un peu de whisky, encore un peu le verre de l'amitié. Ça va devenir 15 verres de l'amitié. Maintenant, qui est le chef là? C'est toi ou le whisky? C'est toi ou la bière? C'est lui. Parce qu'il arrive à te téléguider. Au début, c'est toi qui décides. Mais à la fin, c'est lui qui décide. La cigarette de même. Au début, c'est toi qui décides. Mais à la fin, c'est elle qui dirige. C'est les ténèbres. Tout cela, bien-aimé, c'est les ténèbres. On va faire toute une science pour goûter le vin. Il y a donc des grands maîtres œnologues dont son boulot, c'est de dire que tel vin est extraordinaire. Oh! Alors qu'il y a des gens qui meurent, des malades, il y a des pauvres partout, au lieu de mettre sa vie. Non, son boulot, c'est de voir, non, ça c'est le vin. Ils disent que le vin là a de la cuisse. Quelle cuisse? C'est les ténèbres, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'opposer à moi, ce n'est pas grave. Je vous dis que c'est les ténèbres parce que je ne vois pas un homme passer son temps à parler de cuisses en parlant de vin. De rondeur, ça a de la rondeur. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Tu bois, c'est tout. Il y a des maîtres fromagers. Moi, j'ai dit c'est les ténèbres. Le fromage, on mange, c'est bon, c'est bon. Toi, tu deviens maître en fromage. Ça veut dire quoi? C'est les ténèbres. C'est-à-dire que ton énergie, au lieu d'être utilisée par Dieu pour produire la vie, c'est au service du ventre et de la langue. Non. On doit manger, c'est bien, mais on ne doit pas être esclave de tout ça. C'est les ténèbres, sinon. Ces choses-là doivent être à nos pieds. Vous savez, quelqu'un qui a reçu la lumière, hein, toutes ces choses-là diminuent en goût. Si ces choses-là ont toujours un fort goût pour toi, il y a un problème, il y a encore les ténèbres. On n'a pas dit qu'il ne faut pas manger de tout cela, mais ça va diminuer en goût par rapport à avant. Parce que tu as quelque chose d'autre qui te donne la vie, c'est Jésus. Il te donne la paix, la joie. Les autres choses diminuent automatiquement goût. Vous savez, c'est quand, comme quand quelqu'un est rassasié. Quand quelqu'un est rassasié, le plus bon mets diminue en goût parce qu'il est déjà rempli. Et quand on a reçu Jésus, on est rassasié. Bon, tu vas manger, puisqu'on est des humains, on doit manger. Tu dois t'habiller, on est sur terre, on doit s'habiller. Mais ça n'a plus la même importance qu'avant, parce que tu es rempli, tu es rassasié déjà. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura plus, qui croit en moi n'aura plus faim. Il est rassasié, il est bien. Le reste, c'est parce qu'on est sur terre, on le continue à le faire, mais l'importance a diminué. Nous devons sortir des ténèbres. Passer des ténèbres à la lumière du Seigneur, voir clair, voir que ce qui est important, c'est que les autres reçoivent aussi la lumière, qu'on soit nombreux à recevoir la lumière pour qu'on se retrouve au paradis, là où il n'y aura plus de canicule, ni de vol, ni d'impôts. On sera tout le temps dans la joie. Nous lisons dans Ecclésiaste, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 2.
Tu rends le pays nombreux, tu lui accordes de grandes joies.
Je crois que dans ta version, ça doit être avant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin.
On continue.
Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian.
On continue.
Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
Amen, amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est nous. Autrefois, on était dans les ténèbres. On avait peur des sorciers. On avait peur des malédictions familiales. On avait peur des factures. On avait peur de ne pas voir le CDI. Autrefois, on était dans les ténèbres. On croyait que faire du mal à l'autre, c'était ça qui était bien. Autrefois, on était dans les ténèbres. On croyait que notre intelligence nous suffisait. Mais il est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est Jésus qui vient t'éclairer pour te montrer que tu es dans les ténèbres, tu sors. Viens dans la lumière, tu vas voir clair. Il dit, le dos qui était courbé par les bâtons qu'on frappait, on nous frappait. On était esclaves de certains péchés. Esclaves de Bob Marley. Esclaves de Michael Jackson. On nous frappait. Esclaves du cannabis. Esclave de la colère. Mais une grande lumière vient et chasse ces ténèbres-là. Aujourd'hui, c'est la prière que nous allons faire au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur que la lumière soit dans ma vie et que les ténèbres soient chassées. Définitivement. Ça suffit d'être dominé par le mensonge, la colère, par l'orgueil, ça suffit. D'être dominé par l'argent, ça suffit. Ça suffit d'être dominé par les maladies. À chaque fois que je vois les médicaments, ça m'énerve, bien-aimé. J'ai dit, c'est devenu le chef d'aujourd'hui, les médicaments. Ça suffit. C'est Jésus le dominateur. À nouveau, Jésus doit nous visiter. les ténèbres doivent être chassées à nouveau. On n'est pas contre les médicaments. On est contre la place que ça a pris aujourd'hui. On est contre la place que l'argent a pris aujourd'hui. On est contre cela. Nous avons besoin que les ténèbres soient chassées. On est contre le fait que certaines maladies règnent en maître. On parle plus de ces maladies-là plus que de Dieu. Or, un seul nom doit être élevé, le nom de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voilà la prière que nous allons faire. Au nom de Jésus, disons au Seigneur que la lumière soit dans ma vie. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, aujourd'hui, nous venons dire ça suffit. Ça suffit. Ça suffit avec les ténèbres dans nos vies, Seigneur. Ça suffit avec l'esprit de division. Ça suffit avec la peur du lendemain. Ça suffit avec la recherche du succès humain. Ça suffit avec l'esprit de manipulation. Ça suffit avec l'esprit de pauvreté. Ça suffit. Ça suffit avec l'esclavage de la mode, de l'apparence extérieure. Ça suffit. Seigneur, que les ténèbres soient chassées aujourd'hui. Que la lumière soit au milieu de nous tous. Ça suffit avec le concubinage. Ça suffit avec la polygamie. Ça suffit avec l'esprit de divorce. Seigneur, ça suffit avec le christianisme tiède, modéré. Ça suffit avec le christianisme calculé, mesuré. Car il est écrit, la nouvelle naissance, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Et tu as dit à Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre t'amènera. Seigneur, ça suffit avec le christianisme tiède, mesuré, calculé. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la lumière, ô Éternel. Merci de te manifester par ton esprit, Père. Alléluia, Seigneur. De la même manière que l'éclair. Vous savez, hier, la nuit, il y a eu des éclairs après notre concert à Orival. Il faisait nuit, mais les éclairs rendaient la nuit jour. C'était une confirmation pour cette prédication. Je voulais parler de la lumière. Et quand on m'a dit, quelqu'un m'a dit, mais les éclairs transforment la nuit en jour. J'ai dit, mais c'est ça la lumière de Dieu. Ça va transformer ta nuit en jour. Seigneur, que ta lumière vienne pour transformer la nuit de chacun en jour, la nuit de ceux qui nous écoutent par Internet en jour, la nuit de ceux qui vont écouter plus tard en jour, Seigneur. Que les ténèbres soient chassées définitivement. Les malédictions familiales soient brisées définitivement. Que les ténèbres soient chassées. Que ta lumière vienne dans chacun. Que ta lumière soit, Seigneur, dans chacun d'entre nous. Les esprits de maladie, nous les chassons définitivement au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur.